Chapitre 12. Monsieur Porthos du vallon de Bracieux de Pierrefonds. Grâce aux informations prises auprès d'Aramis, D'Artagnan, qui savait déjà que Porthos, de son nom de famille, s'appelait du vallon, avait appris que, du nom de sa terre, il s'appelait de Bracieux, et qu'à cause de cette terre de Bracieux, il était en procès avec l'évêque de Noyon. C'était donc dans les environs de Noyon qu'il devait aller chercher cette terre, c'est-à-dire sur la frontière de l'île de France et de la Picardie. Son itinéraire fut promptement arrêté. Il irait jusqu'à Dammartin, où s'embranchent deux routes, l'une qui va à Soissons, l'autre à Compiègne. Là, il s'informerait de la terre de Bracieux, et selon la réponse, il suivrait tout droit ou prendrait à gauche. Planchet, qui n'était pas encore bien rassuré à l'endroit de son escapade, déclara qu'il suivrait D'Artagnan jusqu'au bout du monde, prit-il tout droit ou prit-il à gauche. Seulement, il supplia son ancien maître de partir le soir, l'obscurité présentant plus de garantie. D'Artagnan lui proposa alors de prévenir sa femme pour la rassurer au moins sur son sort. Mais Planchet répondit avec beaucoup de sagacité qu'il était bien certain que sa femme ne mourrait point d'inquiétude de ne pas savoir où il était, tandis que, connaissant l'incontinence de langue dont elle était atteinte, lui, Planchet, mourrait d'inquiétude si elle le savait. Ces raisons parurent si bonnes à D'Artagnan qu'il n'insista pas davantage, et que, vers les 8 heures du soir, au moment où la brume commençait à s'épaissir dans les rues, il partit de l'hôtel de la Chevrette et, suivi de Planchet, sortit de la capitale par la porte Saint-Denis. À minuit, les deux voyageurs étaient à Dammartin. C'était trop tard pour prendre des renseignements. L'hôte du signe de la croix était couché. D'Artagnan remit donc la chose au lendemain. Le lendemain, il fit venir l'hôte. C'était un de ces rusés normands qui ne disent ni oui ni non et qui croient toujours qu'ils se compromettent en répondant directement à la question qu'on leur fait. Seulement, ayant cru comprendre qu'il devait suivre tout droit, D'Artagnan se mit en marche sur ce renseignement assez équivoque. À 9 heures du matin, il était à Nanteuil. Là, il s'arrêta pour déjeuner. Cette fois, l'hôte était un franc et bon picard qui, reconnaissant dans Planchet un compatriote, ne fit aucune difficulté pour lui donner les renseignements qu'il désirait. La terre de Bracieux était à quelques lieues de Villers-Cotterêts. D'Artagnan connaissait Villers-Cotterêts pour y avoir suivi 2 ou 3 fois la cour, car à cette époque, Villers-Cotterêts était une résidence royale. Il s'achemina donc vers cette ville et descendit à son hôtel ordinaire, c'est-à-dire au Dauphin d'Or. Là, les renseignements furent des plus satisfaisants. Il apprit que la terre de Bracieux était située à 4 lieues de cette ville, mais que ce n'était point là qu'il fallait chercher Porthos. Porthos avait eu, effectivement, des démêlés avec l'évêque de Noyon à propos de la terre de Pierrefonds qui limitait la sienne, et ennuyé de tous ces démêlés judiciaires auxquels il ne comprenait rien, il avait, pour finir, acheté Pierrefonds, de sorte qu'il avait ajouté ce nouveau nom à ses anciens noms. Il s'appelait maintenant du vallon de Bracieux de Pierrefonds et demeurait dans sa nouvelle propriété. À défaut d'autres illustrations, Porthos visait évidemment à celle du marquis de Carabas. Il fallait encore attendre au lendemain. Les chevaux avaient fait 10 lieues dans leur journée et étaient fatigués. On aurait pu en prendre d'autres, il est vrai, mais il y avait toute une grande forêt à traverser et Planchet, on se le rappelle, n'aimait pas les forêts la nuit. Il y avait encore une chose que Planchet n'aimait pas, c'était de se mettre en route à jeun. Aussi, en se réveillant, D'Artagnan trouva-t-il son déjeuner tout prêt. Il n'y avait pas moyen de se plaindre d'une pareille attention. Aussi, D'Artagnan se mit-il à table. Il va sans dire que Planchet, en reprenant ses anciennes fonctions, avait repris son ancienne humilité et n'était pas plus honteux de manger les restes de D'Artagnan que ne l'étaient Madame de Motteville et Madame de Fargis de ceux d'Anne d'Autriche. On ne put donc partir que vers les 8 heures. Il n'y avait pas à se tromper, il fallait suivre la route qui mène de Villers-Cotterêts à Compiègne et, en sortant du bois, prendre à droite. Il faisait une belle matinée de printemps, les oiseaux chantaient dans les grands arbres, de larges rayons de soleil passaient à travers les clairières et semblaient des rideaux de gaze dorée. En d'autres endroits, la lumière perçait à peine la voûte épaisse des feuilles et les pieds des vieux chênes que rejoignaient précipitamment à la vue des voyageurs. Les écureuils agiles étaient plongés dans l'ombre. Il sortait de toute cette nature matinale un parfum d'herbes, de fleurs et de feuilles qui réjouissait le cœur. D'Artagnan, lassé de l'odeur fétide de Paris, se disait à lui-même que lorsqu'on portait trois noms de terre embrochés les uns aux autres, on devait être bien heureux dans un pareil paradis. Puis il secouait la tête en disant « Si j'étais Porthos et que D'Artagnan me vint faire la proposition que je vais faire à Porthos, je sais bien ce que je répondrais à D'Artagnan. » Quant à Planchet, il ne pensait rien, il digérait. À la lisière du bois, D'Artagnan aperçut le chemin indiqué et, au bout du chemin, les tours d'un immense château féodal. « Oh oh ! » murmura-t-il. « Il me semblait que ce château appartenait à l'ancienne branche d'Orléans. Porthos en aurait-il traité avec le duc de Longueville ?»« Ma foi, monsieur, dit Planchet, voici des terres bien tenues, et si elles appartiennent à monsieur Porthos, je lui en ferai mon compliment. »« Peste, dit D'Artagnan, ne va pas l'appeler Porthos, ni même du Vallon. Appelle-le De Bracieux ou De Pierrefonds. Tu me ferais manquer mon ambassade. » À mesure qu'il approchait du château qui avait d'abord attiré ses regards, D'Artagnan comprenait que ce n'était point là que pouvait habiter son ami. Les tours, quoique solides et paraissant bâties d'hier, étaient ouvertes et comme éventrées. On eût dit que quelques géants les avaient fendues à coups de hache. Arrivé à l'extrémité du chemin, D'Artagnan se trouva dominé une magnifique vallée au fond de laquelle on voyait dormir un charmant petit lac au pied de quelques maisons éparses çà et là et qui semblaient, humbles et couvertes les unes de tuiles et les autres de chaume, reconnaître pour seigneur suzerain un joli château bâti vers le commencement du règne de Henri IV que surmontaient des girouettes seigneuriales. Cette fois, D'Artagnan ne douta pas qu'il fût en vue de la demeure de Porthos. Le chemin conduisait droit à ce joli château, qui était à son aïeul le château de la Montagne, ce qu'un petit maître de la coterie de M. le duc d'Enghien était à un chevalier bardé de fer du temps de Charles VII. D'Artagnan mit son cheval au trot et suivit le chemin. Planchet régla le pas de son coursier sur celui de son maître. Au bout de 10 minutes, D'Artagnan se trouva à l'extrémité d'une allée régulièrement plantée de beaux peupliers et qui aboutissait à une grille de fer dont les pics et les bandes transversales étaient dorés. Au milieu de cette avenue se tenait une espèce de seigneur habillé de vert et doré comme la grille, lequel était à cheval sur un gros roussin. À sa droite et à sa gauche étaient deux valets galonnés sur toutes les coutures. Bon nombre de croquants assemblés lui rendaient des hommages fort respectueux. « Ah !» se dit D'Artagnan, « serait-ce là le seigneur du Vallon, de Bracieux, de Pierrefonds ?»« Eh, mon Dieu, comme il est recroquevillé depuis qu'il ne s'appelle plus Porthos !»« Ce ne peut être lui ?» dit Planchet, répondant à ce que D'Artagnan s'était dit à lui-même. « Monsieur Porthos avait près de 6 pieds, et celui-là en a 5 à peine. » « Cependant, dit D'Artagnan, on salue bien bas ce monsieur. » À ces mots, D'Artagnan piqua vers le roussin, l'homme considérable et les valets. À mesure qu'il approchait, il lui semblait reconnaître les traits du personnage. « Jésus-Dieu, monsieur !» dit Planchet, qui, de son côté, croyait le reconnaître. « Serait-il donc possible que ce fût lui ?» À cette exclamation, l'homme à cheval se retourna lentement et d'un air fort noble, et les deux voyageurs purent voir briller dans tout leur éclat les gros yeux, la trogne vermeille et le sourire si éloquent de Mousqueton. En effet, c'était Mousqueton. Mousqueton gras à l'art, croulant de bonne santé, bouffi de bien-être, qui, reconnaissant D'Artagnan, tout au contraire de cet hypocrite de Bazin, se laissa glisser de son roussin par terre et s'approcha chapeau bas vers l'officier. De sorte que les hommages de l'assemblée firent un quart de conversation vers ce nouveau soleil qui éclipsait l'ancien. « Monsieur d'Artagnan ! Monsieur d'Artagnan !» répétait dans ses joues énormes Mousqueton, tout suant d'allégresse. « Monsieur d'Artagnan ! Oh, quelle joie pour monseigneur et maître du vallon de Bracieux de Pierrefonds ! Ce bon Mousqueton, il est donc ici, ton maître ? Vous êtes sur ses domaines. Mais comme te voilà beau, comme te voilà gras, comme te voilà fleuri !» continuait d'Artagnan, infatigable à détailler les changements que la bonne fortune avait apportés chez l'ancien affamé. « Eh oui, Dieu merci, monsieur, dit Mousqueton, je me porte assez bien. Mais ne dis-tu donc rien à ton ami Planchet ? À mon ami Planchet ? Planchet, serait-ce toi par hasard ? S'écria Mousqueton, les bras ouverts et des larmes plein les yeux. Moi-même, dit Planchet, toujours prudent, mais je voulais savoir si tu n'étais pas devenu fier. Devenu fier avec un ancien ami ? Jamais, Planchet. Tu n'as pas pensé cela, ou tu ne connais pas Mousqueton. À la bonne heure, dit Planchet en descendant de son cheval et en tendant à son tour les bras à Mousqueton. Ce n'est pas comme cette canaille de Bazin qui m'a laissé 2 heures sous un hangar sans même faire semblant de me reconnaître. Et Planchet et Mousqueton s'embrassèrent avec une effusion qui toucha fort les assistants et qui leur fit croire que Planchet était quelque seigneur déguisé, tant ils appréciaient à sa plus haute valeur la position de Mousqueton. « Et maintenant, monsieur, dit Mousqueton, lorsqu'il se fut débarrassé de l'étreinte de Planchet, qui avait inutilement essayé de joindre ses mains derrière le dos de son ami. Et maintenant, monsieur, permettez-moi de vous quitter, car je ne veux pas que mon maître apprenne la nouvelle de votre arrivée par d'autres que par moi. Il ne me pardonnerait pas de m'être laissé devancer. » « Ce cher ami, dit d'Artagnan, évitant de donner à Porthos ni son ancien ni son nouveau nom. « Il ne m'a donc pas oublié ?»« Oublié, lui ? » s'écria Mousqueton. « C'est-à-dire, monsieur, qu'il n'y a pas de jour que nous ne nous attendions à apprendre que vous étiez nommé maréchal ou en place de monsieur de Gassion ou en place de monsieur de Bassompierre. » D'Artagnan laissa errer sur ses lèvres un de ces rares sourires mélancoliques qui avaient survécu dans le plus profond de son cœur au désenchantement de ses jeunes années. « Et vous, Manant, continua Mousqueton, demeurez près de monsieur le comte d'Artagnan et faites-lui honneur de votre mieux, tandis que je vais prévenir monseigneur de son arrivée. » Et remontant, aidé de 2 âmes charitables sur son robuste cheval, tandis que Planchet plus un gambe remontait tout seul sur le sien, Mousqueton prit sur le gazon de l'avenue un petit galop qui témoignait encore plus en faveur des reins que des jambes du quadrupède. Ah ça ! Mais voilà qui s'annonce bien, dit d'Artagnan. Pas de mystère, pas de manteau, pas de politique par ici. On rit à gorge déployée, on pleure de joie, je ne vois que des visages larges d'une aune. En vérité, il me semble que la nature elle-même est en fête, que les arbres, au lieu de feuilles et de fleurs, sont couverts de petits rubans verts et roses. Et moi, dit Planchet, il me semble que je sens d'ici la plus délectable odeur de rôti, que je vois des marmitons se ranger en haie pour nous voir passer. Ah, monsieur, quel cuisinier doit avoir monsieur de Pierrefonds, lui qui aimait déjà tant manger et si bien manger quand il ne s'appelait encore que monsieur Porthos. Halte-là, dit d'Artagnan, tu me fais peur. Si la réalité répond aux apparences, je suis perdu. Un homme si heureux ne sortira jamais de son bonheur, et je vais échouer près de lui comme j'ai échoué près d'Aramis.